Je sais pas si ça vous arrive, vous, d'avoir des moments de doute, d'incompréhension, d'inquiétude, de découragement, non? Ça vous arrive pas, de lassitude? Bon, moi, ça m'arrive en tout cas. Vous, je sais pas, mais moi, ça m'arrive. Je crois qu'on est quand même plusieurs à avoir des moments ou des saisons dans notre vie où on passe par des moments qui sont plus difficiles et ça peut être dans des domaines qui sont très différents. Ça peut être la maladie, le deuil, enfin des sujets très profonds, et puis ça peut être aussi des choses peut-être moins visibles. Ça peut être des difficultés dans la famille, ça peut être des difficultés au travail, ça peut être des problèmes dans son identité propre. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui nous mettent parfois en difficulté, qui mettent un poids dans notre vie et dans nos pensées. Dans la Bible, on sait qu'il y a aussi plein d'exemples de personnes qui ont vécu des moments difficiles, parfois même très difficiles. Il y a Job, Joseph, David, Jésus aussi qui a vécu des moments évidemment très difficiles. Et puis il y a d'autres exemples qui sont peut-être un peu moins marquants, mais qui, je trouve, définissent aussi un petit peu ce qu'on peut vivre parfois au quotidien. J'en ai juste trois que je voulais vous citer, voilà, un petit peu plus, peut-être un peu moins connus comme étant des moments difficiles dans la vie des uns et des autres. Je pensais à Marthe en Luc 24. Alors je vous lis juste le petit passage dans la version seconde dite de la colombe, parce que je trouve que la phrase, elle est très parlante. Donc, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, ne te mets-tu pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour pouvoir servir ?» J'ai trouvé cette phrase « Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. » Et pour moi, ça me fait vraiment penser au stress, à la surcharge qu'on peut avoir dans plein de situations. Là, c'est dans le service, ça peut être dans d'autres occasions, ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, ça peut être dans le voisinage. Mais voilà, on peut avoir des occasions de stress. On a aussi les disciples d'Emmaüs en Luc 24. Alors, je vous lis le petit passage. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Là, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir du doute, de l'incompréhension. Parfois, on croit avoir compris quelque chose, on croit obéir au plan de Dieu. Et en fait, on ne voit pas et on ne comprend pas ce qui se passe. Puis un autre exemple, c'est Moïse. Alors, c'est dans une dimension un peu différente, c'est plus dans un cadre de responsabilité, mais on voit que Dieu s'adresse à lui avant de l'envoyer pour libérer son peuple en Égypte. Donc, en Exode 3 et 4, j'ai juste fait des petits extraits. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et un peu plus loin, Moïse répondit, donc c'est une nouvelle fois Dieu qui insiste. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Et encore un peu plus loin, un autre verset, Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible Seigneur, je n'ai pas la parole facile, je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Et je trouve que ce passage, il nous montre aussi peut-être des inquiétudes ou des craintes qu'on peut avoir face à l'échec, face à un sentiment d'incapacité. Et voilà, peut-être que vous avez plein d'autres passages en tête qui pourraient illustrer un peu voilà, tout ce type d'inquiétude ou de doute qu'on peut avoir ou d'incompréhension. Et voilà, peut-être si je devais donner un message, un titre, pardon, à ce message, je dirais les montagnes et les vallées, ou les hauts et les bas. Parce qu'en fait, on a des moments dans notre vie où tout va bien, et puis il y a d'autres moments où c'est vraiment, on est dans la difficulté. Et encore une fois, c'est pas forcément des choses très visibles. Mais voilà, on peut vraiment avoir des moments où on se sent plus incapable, plus en retrait. Je voulais parler aussi d'un autre personnage, personnage, ça fait un peu BD, mais d'une personne, qui me touche aussi particulièrement. C'est quelqu'un qui est à la fois tout feu, tout flamme parfois, et parfois en panique, en retrait, qui se sent un peu incapable. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Ouais, exactement. En fait, j'aime bien le personnage de Pierre. Et je vais juste vous lire encore quelques petits extraits sur la vie de Pierre, qui montre vraiment, je trouve, ses côtés un peu en dents de scie, finalement. Pierre, il a été choisi de façon très particulière pour suivre Jésus. Il apprend à le connaître, il marche avec lui comme un de ses disciples. Et puis, il y a un passage en Matthieu 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Il est vraiment rempli de l'esprit. Et verset 21, trois versets plus loin, un autre passage. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » En fait, Pierre, il est passé d'un moment merveilleux à un moment terrible, en fait. Et c'est en trois versets, alors c'est, dans le temps, c'est un peu plus long que ça, mais c'est quand même dans une période de temps relativement courte. Et pour autant, ça l'a pas empêché de continuer à servir Dieu, à le suivre. Et Jésus l'a évidemment pas rejeté. Et il a même continué à le former. Il y a un autre passage qui est assez célèbre dans la vie de Pierre, en Matthieu 14. Donc Pierre et les autres disciples sont pris dans une tempête. Et Jésus s'approche de leur barque et il marche sur les eaux. Et au verset 28, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Incroyable. Pierre marche sur l'eau. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » C'est la panique. En un instant. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé parfois d'accepter peut-être quelque chose que Dieu vous demande et puis d'un coup vous sentir pas à la hauteur de la tâche? On a des moments où on se sent sombré. Mais en fait, si on y réfléchit bien, quand Jésus parle à Pierre, il n'est pas en train de lui crier des choses depuis le rivage, ni lui donner des conseils depuis la barque. En fait, il est à côté de lui. Il est juste à côté de lui, à portée de main. Et puis un troisième passage dans la vie de Pierre, en Luc 22, la nuit de l'arrestation de Jésus. Et là, voilà, pour beaucoup, on connaît cette histoire. Pierre a nié connaître Jésus trois fois avant que le coq ne chante. Et au verset 61 et 62, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors que quelques heures plus tôt, il avait affirmé qu'il était prêt à aller en prison et à mourir avec Jésus. Et là, c'est horrible, c'est vraiment un sentiment d'échec, de honte. Et pourtant, quelques jours plus tard, les disciples sont sortis pour pêcher. Et Jésus, après sa résurrection, les retrouve sur le rivage. Et après une pêche encore une fois extraordinaire, il leur prépare à manger. Et Pierre retrouve Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Prends soin de mes brebis, suis-moi. C'est incroyable. En fait, quand tout semble perdu, le Seigneur est encore capable de nous faire des promesses, de nous sortir de situations difficiles. Et en fait, Pierre, c'est aussi bien celui qui a essayé de faire obstacle au plan de Dieu, qui a failli se noyer par manque de foi, qui a renié le Seigneur trois fois. Et c'est aussi celui qui a marché sur l'eau. C'est le premier apôtre à témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est celui qui est aussi envoyé pour préparer et participer à la construction de l'Église de Dieu. Des montagnes et des vallées. Et nous, peut-être qu'on ne vit pas des situations aussi singulières, aussi uniques que ce qu'on vient de lire dans ces moments, mais on peut aussi vivre des saisons, et des saisons dans notre vie qui ne sont pas toujours en ligne droite. On peut avoir des joies, des peines, des succès, des épreuves, et des moments où la période de la présence de Dieu nous semble évidente, et puis d'autres où elle nous paraît plus discrète. Il y a des moments où tout semble aller vraiment dans le bon sens, tout va bien dans la famille, dans la santé, le travail, la vie spirituelle. Et puis parfois, il y a des périodes plus sombres. À tout niveau, hein, on l'a dit, la maladie, le deuil, mais ça peut être aussi une déception, perte d'emploi, un péché, ou même juste un sentiment de solitude. Et en fait, dans la Bible, on voit avec ces exemples que la Bible ne cherche jamais à minimiser cette situation. En fait, à cause du péché qui est entré dans le monde, Dieu a trouvé un moyen particulier, qui est la souffrance, pour, d'une certaine manière, faire un travail dans notre vie. Et pour que la vie de Christ puisse se répandre en nous. Mais voilà, ce qui est particulièrement merveilleux, c'est qu'au milieu de toutes ces variations, toutes ces montagnes et ces vallées, il y a une réalité qui demeure, c'est que Dieu est présent. Dieu est présent dans nos vies. Dieu est bon et Dieu connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent. Alors, moi, j'avais juste une petite illustration à titre perso et c'est vraiment un truc minuscule par rapport à des choses qu'on peut entendre là en ce moment dont on vient de se parler. Il y en a quelques-unes dans la pièce qui savent de quoi je parle. Au travail, on est en pleine réorganisation. Donc voilà, les gens changent de poste et tout, il y a des opportunités. Et voilà, moi j'étais intéressée par un poste, j'ai eu un échange avec quelqu'un, ça s'est hyper bien passé. La dame me dit « Ouais, ce serait super que tu rejoignes l'équipe et tout. » Et puis, 10 jours après, elle me dit « Ben non, finalement, ce sera quelqu'un d'autre. » Montagne et vallée. Et puis peu de temps après, j'ai quelqu'un d'autre qui me contacte et qui me dit « Oui, j'ai pensé à toi pour un poste, j'aimerais que tu rejoignes mon équipe et tout ça. » J'hésite, je réfléchis, puis je dis « Bon, ok. » Je vais dire oui, donc là, c'est bon, je suis prête. Et là, elle me dit, ben non, en fait, j'ai quelqu'un d'autre qui est venu et que je vais prendre plutôt à ta place. Montagne et vallée. Et voilà, je sais que c'est pas grand-chose. On l'a dit, il y a plein de moments qui sont plus ou moins importants, mais en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que même si c'est pas quelque chose de dramatique, puisque j'ai encore un travail, j'ai un chef qui est content de ce que je fais, enfin voilà, il y a rien de catastrophique. Pour autant, c'est des moments qu'on peut vivre dans nos émotions, qui peuvent être parfois difficiles, qui peuvent être, qu'il faut aussi accepter et il faut apprendre à vivre là-dedans. Et surtout, ce que je crois vraiment et fermement, c'est que Dieu est dans nos moments, dans les petites choses, dans les petites difficultés, comme dans les grandes. Il y a rien d'insignifiant pour lui, parce qu'il s'intéresse à chacun des détails de nos vies. Et il est présent dans nos vies, il est bon, il nous connaît parfaitement. Et du coup, pour éclairer un petit peu tout ça, j'aimerais qu'on prenne un peu plus de temps dans deux psaumes en particulier. Et je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous les connaissez très bien, ces deux psaumes. Et j'aimerais juste qu'on les regarde. On va pas tout lire, enfin, on va pas détailler tout ce qui s'est dit. Je sais pas si je les lis en entier. Allez, vous êtes bien à la clim. On les lit en entier. On va commencer par le psaume 139. Psaume 139. Au chef des chantres de David. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et on va pas relire tout en détail, mais je voulais juste qu'on se penche sur quelques versets de ce psaume. En fait, ce psaume, c'est, je pense, c'est un des plus personnels de David et même un peu de la Bible. Hein. Et en fait, David, là où c'est un peu particulier, c'est qu'il ne rencontre pas une victoire militaire, comme peut-être dans d'autres psaumes. Mais juste, il ouvre son cœur. Il ouvre son cœur devant Dieu et il médite sur tes grandes vérités. Dieu connaît tout. Dieu est partout. Dieu est le créateur de notre vie. Et Dieu est parfaitement saint. Et contrairement peut-être à d'autres psaumes, c'est pas un cri de détresse ou une demande à l'aide, c'est simplement David qui contemple qui est Dieu. Et en fait, ça lui permet aussi de transformer ensuite sa manière de regarder sa propre existence. Parfois, c'est ce dont on a besoin aussi quand on traverse des montagnes et des vallées. Avant de demander peut-être à Dieu de changer nos circonstances, parfois on peut aussi laisser Dieu changer notre regard sur nous, sur notre vie. Et peut-être si on devait résumer un peu le psaume 139, on pourrait dire que parce que Dieu me connaît parfaitement, parce qu'il est présent partout et qu'il dirige souverainement ma vie, je peux lui faire confiance dans toutes les saisons de mon existence. Comme je disais juste avant, en fait, il n'y a pas de choses insignifiantes pour Dieu. Tout ce qui se passe dans notre vie l'intéresse. Il s'en soucie. Et donc les versets 1 à 4, on a dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Et le premier verbe « sonder », il est important parce que dans le terme hébreu, la signification de ce terme, c'est vraiment « examiner minutieusement ».« Explorer en profondeur ». Comme un mineur qui fouille à la recherche d'un trésor, qui gratte. Et en fait, David, il déclare par là que Dieu, il possède pas seulement quelques informations sur lui, sur nous, mais beaucoup plus. Il nous connaît en profondeur. Et le temps qui est utilisé, c'est un temps qui exprime une action permanente. C'est-à-dire que Dieu sonde continuellement son enfant. Et ensuite, David dit, tu me connais. Effectivement, Dieu connaît tout. Et le verbe hébreu, lui aussi, il exprime une connaissance profonde, qui est une connaissance qui est personnelle, qui est relationnelle. David ne dit pas juste « Dieu sait des choses sur moi », mais Dieu connaît, me connaît, il connaît mon histoire, mes blessures, mes motivations, mes combats, mes joies, mes faiblesses. Et peut-être que pour certains, celui qui a envie de cacher son péché, ça peut faire peur. Mais pour celui qui souffre, qui est dans le doute, qui est dans l'inquiétude, ben en fait, c'est plutôt une consolation. Et parfois, on a l'impression que personne ne comprend réellement ce qu'on traverse. Nos proches, peut-être, peuvent voir des larmes ou des inquiétudes, mais ils ne connaissent pas forcément nos combats intérieurs, nos pensées, mais Dieu connaît tout. Et David poursuit, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Autrement dit, dans les gestes même les plus ordinaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dieu connaît, s'intéresse à nous. Pas seulement dans les grands événements de notre existence, mais dans notre quotidien, nos habitudes, nos inquiétudes, nos nuits peut-être sans sommeil, nos journées de travail, nos moments de joie, nos découragements. C'est comme Jésus qui nous a dit en Matthieu 10, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. En fait, David, c'est pas juste une façon poétique de dire que Dieu nous aime, c'est vraiment une affirmation. Dieu possède une connaissance parfaite de chacun de ses enfants. Et donc, il poursuit, tu pénètres de loin ma pensée. Avant même que nos idées deviennent des paroles, Dieu les connaît. Et ça, c'est un truc un peu renversant parce que parfois, on peut donner l'impression qu'on est très spirituel et peut-être qu'on peut tromper notre entourage, voire nous-mêmes. Parfois, c'est l'inverse aussi. On peut donner l'impression d'être, j'en sais rien moi, très dur, très distant, alors qu'en fait, on est très profond et très spirituel. Dieu voit nos motivations profondes. Vous savez, c'est comme Samuel qui doit choisir un roi parmi les fils d'Isaïe, et puis Dieu lui rappelle, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et en fait, c'est une vérité qui est, d'une certaine manière, un peu exigeante pour nous, mais en même temps, elle est rassurante quand on sait que c'est du point de vue de Dieu. Et en fait, par exemple, quand on est peut-être injustement jugé, Dieu connaît la vérité. Quand on est parfois peut-être incompris, Dieu connaît la vérité. Quand quelqu'un ne remarque pas forcément notre fidélité, Dieu la voit. Voilà, on sait qu'on peut vivre sous le regard bienveillant de notre Père Céleste. Ensuite, il dit, « Tu sais quand je marche et quand je me couche. » Et là, c'est comme si David insistait pour préciser que Dieu il accompagne aussi bien les journées que les nuits. Marcher, c'est l'activité et se coucher, bah, c'est le repos. Et en fait, il n'y a aucun moment où Dieu arrête d'être attentif à ses enfants. Et tu pénètres toutes mes voies. Et le mot voie, c'est en hébreu, ça parle du chemin de vie, de la manière de vivre. Et donc voilà, c'est comme s'il en rajoutait encore une couche si on n'avait pas bien compris. Et puis un peu plus loin, au verset 8 à 10, on l'a lu, hein. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. En fait, les cieux, c'est le lieu peut-être le plus élevé qu'on peut imaginer. Et David le prend vraiment comme exemple parce que c'est extrême, justement. Et Dieu est déjà présent. Et le séjour des morts, bah, c'est la profondeur ultime. Et David, il oppose du coup ces deux notions, la plus grande hauteur, la plus grande profondeur, mais en fait, il n'y a aucun extrême qui n'échappe à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous le dit lui-même en Jérémie 23, verset 24. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ?» dit l'Éternel. « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ?» dit l'Éternel. Et voilà, on a la certitude que Dieu est partout, quoi qu'il arrive. Comme David, il a peut-être pu, on le sait, hein, se cacher parfois dans des cavernes quand il était poursuivi par Saül, mais il n'était pas caché aux yeux de Dieu. Et de la même façon que l'aurore, c'est plutôt à l'est, c'est le matin, c'est le lever du soleil, et de l'autre côté, il y a l'extrémité de la mer. Et à cette époque, ça parlait vraiment de la distance, de l'Occident, de l'inconnu en fait. Et donc, c'est David qui décrit ce voyage le plus loin le plus lointain imaginable. Et même au bout du monde, Dieu demeure présent. Ta main me conduira et ta droite me saisira. Et en fait, le fait que Dieu soit présent partout, c'est pas juste passif. Parce qu'en fait, il précise bien que la main de Dieu nous conduit. Dieu nous accompagne. C'est une présence active. Et la main droite, ça symbolise la puissance, la protection, la victoire. Et Dieu se contente pas d'être présent, mais il soutient. Et ça parle vraiment d'une main qui tient fermement afin d'empêcher une chute. Sa main, elle nous conduit pas seulement vers les sommets, mais elle nous saisit aussi lorsqu'on dégringole dans les vallées. Et au psaume 18, David dit « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivre de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Et Jésus nous déclare aussi en Matthieu 28 « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et toujours un petit peu plus loin encore dans ce passage, c'est le dernier verset que je voulais partager sur ce psaume-là. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » Dans la pensée hébraïque, les reins, c'est vraiment le siège des émotions les plus profondes, de l'intériorité. Et du coup, là, David nous montre vraiment que Dieu n'est pas seulement créateur du corps, mais il a façonné toute notre personne. Et tu m'as tissé. Le verbe, ça fait référence à un travail qui est patient, le travail d'un artisan, d'une broderie complexe. Chaque fil possède sa place. Et David célèbre ici le soin personnel de Dieu dans la création de chaque être humain. Il ne parle pas d'un processus impersonnel, mais c'est vraiment un créateur qui est impliqué. Et en Ésaïe 64:8, on a un peu le même esprit. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Dieu, c'est vraiment un artisan attentif qui a une œuvre qui est intentionnelle, qui est pleine de sagesse. Et Paul, en Éphésiens 10, le dit aussi, nous sommes son ouvrage. En grec, le mot, c'est poiema, qui signifie littéralement une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Alors, je vous avoue que moi, je suis pas sûre de me voir toujours comme un chef-d'œuvre de Dieu. Mais en fait, ça nous montre que notre valeur, elle repose pas sur nos performances, sur le regard des autres, mais juste sur le fait qu'on est l'œuvre de Dieu. Et voilà, Dieu nous connaît parfaitement jusqu'au bout des ongles, littéralement. Et j'avais envie qu'on regarde un deuxième psaume dans lequel on voit aussi combien Dieu prend soin de nous dans nos détresses, dans nos déserts, dans nos vallées, dans nos craintes. C'est aussi un psaume que je pense pour la plupart vous connaissez, c'est le psaume 34. Et comme on est toujours bien sous la clim et qu'il est un tout petit peu plus court, je vais aussi le lire en entier, puis on regardera quelques versets aussi. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors ce psaume, lui, n'est pas écrit dans un palais après une victoire éclatante, il est plutôt composé après un épisode un peu particulier, un peu humiliant et dangereux pour la vie de David. Et c'est noté dans le titre du psaume, c'est un moment où il a dû feindre la folie devant Abimélec, qui est aussi appelé Achish dans un autre passage, afin de sauver sa vie. David était poursuivi par Saül, il est seul, il est vulnérable. Et pourtant, il avait été loin déjà pour redevenir roi. Il était intègre vis-à-vis de Saül, mais là, il est obligé de jouer le fou pour garder sa vie. Et on peut se dire qu'il y a de quoi devenir un peu amer, découragé dans le service, même désespéré, se poser aussi des questions sur la fidélité de Dieu. Et pourtant, on voit que David a accepté cette situation difficile et il écrit ce très beau psaume de confiance et de louange. Et alors juste pour la petite histoire, c'est un psaume qui est construit en ce qu'on appelle en acrostiche, c'est-à-dire que en fait, normalement, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet, alors hébraïque. Hein. Et en fait, c'est comme si vraiment, David, quand il l'a écrit, il voulait vraiment que ce soit une aide pour le mémoriser, pour pas l'oublier. C'est comme si c'était un peu un moyen mnémotechnique. Et donc, on va regarder quelques versets un peu plus qu'on va gratouiller un peu. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Les malheureux ici, c'est les débonnaires ou les humbles, ceux qui acceptent de souffrir dans le silence et dans l'humilité. Et ça veut dire parfois que accepter le plan de Dieu, c'est meilleur pour nos vies. C'est reconnaître aussi l'autorité de Dieu dans notre vie. C'est d'ailleurs ce que fait David. Et ça parle aussi de patience, de pas forcément chercher à précipiter les choses. David aurait pu chercher à régler un peu vite la situation, on l'a dit, il avait été loin. Et parfois, c'est ce qu'on veut faire, même dans les petits conflits avec des proches ou même dans des situations plus larges. On n'est pas toujours patient parce qu'on ne supporte pas l'injustice ou parce qu'on a envie de régler les choses. Mais en fait, la vie avec Dieu, c'est aussi marcher dans sa patience. Mais la promesse ici, c'est que les malheureux écoutent et se réjouissent. La promesse, c'est qu'on peut nous faire du mal, mais qu'il faut être parfois patient, parce qu'on va pouvoir se réjouir. Un peu plus loin, David dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Je trouve ça beau parce que David ne cache pas sa peur. Il parle de frayeur. C'est très réaliste. Et c'est vrai parce que être croyant, avoir la foi, ce n'est pas l'absence d'émotion, ce n'est pas l'absence de crainte. Et il y en a plein qui ont connu le doute des serviteurs de Dieu. On a parlé de Moïse tout à l'heure. Il y a Élie aussi qui a connu le découragement. Jérémie. Paul aussi qui a parlé de ses angoisses. Et évidemment Jésus, lui-même aussi, à Gethsémani. Mais en fait, le point, c'est pas l'absence de peur. Mais c'est la direction qu'on prend quand la peur survient. David, on voit, il cherche Dieu. Et le verbe chercher, ça suggère une démarche vraiment volontaire. Persévérante. On peut vraiment se tourner vers Dieu plutôt que de nous enfermer dans nos inquiétudes. Et le verbe délivrer, hein, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, c'est littéralement sauver, mais c'est aussi arracher, séparer. Donc il m'a séparé de mes craintes. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le verbe tourner les regards, ça, c'est un peu plus, c'est pas juste un coup d'œil, c'est, dans l'hébreu, c'est vraiment, ça évoque l'idée de fixer son attention avec confiance. Et David ne dit pas regardez vos problèmes, regardez vos ressources, regardez vos capacités. Il dit regardez Dieu. Et en fait, c'est ça le fondement, le fonctionnement, de notre vie, c'est ce principe, c'est regarder à Dieu. On a parlé de Pierre tout à l'heure, vous savez, quand il marche sur les eaux, au début, il regarde Jésus, tout va bien. Et quand il se met à regarder le vent, il s'enfonce. Et c'est vraiment la direction de notre regard qui va aussi, peut-être parfois, donner une stabilité à notre cœur. Et donc ensuite, on a le mot rayonnant. On est rayonnant de joie. C'est vraiment un visage illuminé. C'est pas un visage qui est sans difficulté. C'est un visage d'une personne qui sait que Dieu est présent. Et je pense que vous l'avez peut-être en tête, mais vous vous souvenez Moïse, qui après avoir rencontré Dieu en Exode, il est revenu avec un visage brillant. C'est vraiment que la communion avec Dieu, elle transforme progressivement l'expression même de notre être, de notre vie. Et notre joie, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle découle de la présence de Dieu dans nos circonstances. C'est l'action de Dieu dans notre vie. Et parfois, nous, à cause des difficultés, de l'impatience, on plonge nos regards en nous-mêmes. Plonger nos regards, ça c'est une expression dans Jacques, qui parle de plonger les regards dans la loi parfaite. Et parfois, nous, on les plonge en nous-mêmes, mais du coup, on ne brille pas. Alors que Dieu, en fait, il veut faire sortir un trésor de nos situations difficiles. Et on peut, même dans les moments difficiles, on peut rayonner de joie. Il faut s'imaginer que dans ce passage, David, donc, il s'était fait passer pour fou. Donc, et d'ailleurs, je ne l'ai pas lu le passage, mais vraiment, il dit qu'il bavait. Enfin, vraiment, il s'était manifeste dans sa... physiquement même. Et en fait, voilà, ça nous parle encore une fois de ne pas regarder à l'extérieur, aux apparences de la situation, mais en fait, le rayonnement, c'est quelque chose qui peut changer les circonstances. Et qui nous permet de plonger nos regards dans l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, parfois, on peut se dire aussi, par exemple, quand Jésus, il était à la croix, il y en a qui ont dû le prendre pour un fou. Hein? Toi qui te prends pour le roi des Juifs. Mais en fait, malgré ça, malgré sa souffrance, malgré cette apparence extérieure, il a continué à regarder au Père. Et la suite de ce verset, et le visage ne se couvre pas de honte. La honte, c'est souvent lié au péché, à l'échec, au rejet, tout ça. Et en fait, là, Dieu affirme que si on met sa joie dans le Seigneur, eh ben, on ne connaîtra pas, on sera encouragé. Ça ne veut pas dire qu'on vivra jamais dans l'humiliation ou l'injustice, mais ça veut dire que Dieu nous laissera jamais dans une déception définitive. C'est comme Pierre, on a parlé tout à l'heure. Jésus l'a appelé alors même que Pierre l'avait renié. Vous vous souvenez, on a dit Pierre a pleuré quand il a réalisé ce qu'il avait fait. Il était vraiment sans doute dans un sentiment de honte. Et pourtant, Jésus est venu le chercher, l'a restauré, il lui a donné une nouvelle espérance. Et ça, c'est la grâce. C'est ce qui définit notre relation avec Jésus. C'est pas notre passé, nos échecs peut-être, mais c'est la vie de Christ qui aura le dernier mot. Ensuite, il nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. Le malheureux, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est celui qui est aussi sans ressources. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Dieu, il n'est pas impressionné par notre force. Au contraire, il répond à notre besoin de dépendance vis-à-vis de lui. Il n'y a aucune chose qui tombe dans le vide à ses oreilles. Et un tout petit peu plus loin, il est dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. » Alors dans l'Ancien Testament, l'ange, c'est souvent une figure un peu particulière. Ce n'est pas un ange ordinaire, c'est généralement une manifestation préincarnée de Jésus-Christ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça désigne vraiment une présence divine, active, et qui protège le peuple de Dieu. Et l'image, elle a même quelque chose d'un peu militaire. C'est comme s'il y avait une armée qui établit tout son camp autour d'une ville pour la protéger, ou autour de notre vie pour la protéger et la défendre. David, il se présente vraiment comme un protégé de l'armée céleste. Et c'est pas une protection occasionnelle, c'est une protection permanente. C'est pas Dieu qui envoie du secours juste quand il y a du danger qui arrive, au moment où ça arrive. Mais en fait, sa présence, elle précède même le danger parce qu'elle est permanente. Et en fait, même si nous, on voit pas cette action de Dieu, lui, il est toujours à l'œuvre. Ça, peut-être ça vous rappelle l'histoire d'Élisée, quand il est terrifié par l'armée ennemie. Et en fait, il découvre que finalement, la montagne, elle est remplie de chars de feu. Il ne le voyait pas, mais en fait, Dieu, lui, voit ce qu'on ne voit pas, nous. Il sait ce qu'on ignore, même les choses invisibles. Et la protection de Dieu, elle ne dépend pas de notre capacité à voir sa protection. Elle est là, c'est lui qui est présent. Ça précède vraiment notre prise de conscience. Et donc la suite, c'est « Et il les arrache au danger ». Et là, c'est vraiment dans le sens de délivrer, faire échapper. Et en plus, on peut vraiment dire que David parle d'expérience parce qu'il a été poursuivi pendant de nombreux moments par Saül. Il a connu la guerre, l'exil, mais il sait que Dieu délivre. Encore un peu plus loin, il est dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Il dit pas juste « croyez que Dieu est bon », il dit « sentez ». Peut-être dans d'autres versions, dans vos versions, vous avez peut-être goûté, savouré. Et c'est vraiment ça, c'est que la foi, c'est pas juste intellectuel, c'est une expérience réelle, c'est une intimité avec Dieu et avec sa grâce. Il y a que celui qui goûte un aliment qui peut en apprécier sa saveur. Et nous, c'est de la même manière que Dieu, on peut le connaître personnellement et expérimenter sa grâce. C'est comme si la bonté de l'Éternel devait être notre repas. Notre vie avec Dieu, c'est une relation. Une place dans nos montagnes et nos vallées. Il nous invite à prendre une bouchée de Dieu, en quelque sorte. Ça me faisait penser à l'histoire de la Samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus au puits, elle témoigne de ce qu'elle a goûté, de ce qu'elle a vu. Elle a vraiment vécu une expérience personnelle, une rencontre avec Jésus, et c'est ce qu'elle veut dire à ses voisins. Et un peu plus loin encore, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et le lionceau, c'est souvent le lion, en tout cas la force, la vigueur, l'instinct de prédateur. Mais en fait, même un animal aussi puissant peut manquer de nourriture. Et en fait, David oppose ici la confiance dans sa propre force et la confiance en Dieu. En fait, la force humaine, elle a des limites, et alors que celle de Dieu, elle en a pas. Et ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est vraiment une orientation permanente. C'est organiser son existence autour de Dieu. Et le mot bien, c'est pas forcément le confort, mais c'est plutôt dans le sens de ce qui est bénéfique selon la volonté de Dieu. C'est comme le verset que beaucoup connaissent, hein, de Paul, « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. » Bah, c'est vraiment dans ce sens-là, cette notion de bien. Et puis, j'en ai encore pas mal, mais je ne veux pas faire trop long. Je voulais juste encore en partager un ou deux passages. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Ça peut sembler un peu dur, même déprimant. Et en fait, c'est réaliste au-delà de tout, hein, parce qu'on ne dit pas le juste sera épargné, il dit bien le juste souffre souvent. Et voilà, parfois il y a des choses qui sont prêchées, peut-être même des fausses croyances, de dire que la foi, ça garantit une existence sans épreuve. Et on sait que c'est pas vrai. Mais là, il est dit... En plus, il est marqué, c'est pas dit de temps en temps, parfois. Mais souvent, c'est écrit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est vraiment le contraste qui est essentiel. Ce mot mais, c'est vraiment un pivot. Le malheur, il est réel, il arrive. Mais il n'est pas souverain, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu le maître. Parfois, on aimerait moins d'épreuves et moins de délivrances, mais en fait, Dieu nous propose beaucoup d'épreuves, mais aussi beaucoup de délivrances. Ça nous permet de voir la main de Dieu encore plus souvent. Et c'est ça qui nous permet d'accepter les défis de Dieu. Et cette délivrance, ça signifie pas que chaque problème disparaît immédiatement, c'est que ça nous affirme que Dieu nous conduit dans une victoire ultime, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel délivre toujours. C'est comme, imaginez-vous que vous avez quelqu'un que vous aimez particulièrement, un fiancé, un mari, un ami, un enfant, et ben, les gens que vous aimez beaucoup, vous avez envie de les voir souvent. C'est pas juste une fois dans l'année. Et ben, c'est de la même façon, Dieu veut une relation dans notre âme pour qu'il puisse se glorifier en permanence avec, dans nos vies. Nous, parfois, on se dit, non, allez, sauve-moi de cette situation, puis c'est bon, laisse-moi gérer, je vais gérer la suite tout seul. Non, Dieu, il veut qu'on compte sur lui en permanence. Et puis le dernier verset que je voudrais qu'on va juste regarder, c'est « Garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Et à première vue, ça peut sembler évoquer juste la protection physique, mais en fait, ça veut vraiment dire que Dieu veille jusque dans les détails les plus concrets de nos vies. Et les os, ça représente souvent la solidité, l'intégrité même de la personne. Et dire qu'aucun os n'est brisé, c'est vraiment affirmer que Dieu préserve celui qui lui appartient, son enfant, selon son dessein. Et puis, je pense que vous l'avez aussi en tête, mais ça a aussi une portée prophétique, hein, puisqu'au moment de la crucifixion, les soldats romains ont brisé les jambes des criminels qui étaient à droite et à gauche de Jésus. Et en arrivant devant Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Et on ne lui a brisé aucun os, aucun de ses os. Et c'est vraiment, du coup, dans l'évangile de Jean, on voit vraiment l'accomplissement explicite de ce verset. Et c'est vraiment une protection encore plus pour nous. C'est l'annonce de Jésus-Christ, finalement, ce verset. Ce juste qui a traversé des souffrances qui sont extrêmes et qui a en même temps accompli les Écritures. Et en fait, c'est vraiment en Jésus qu'on peut trouver tout ce réconfort. Lui qui est mort pour nous, mais qui est aussi sorti victorieux par sa résurrection. Et lui qui a traversé une profondeur de la souffrance. On ne sait pas forcément comment ni quand Dieu nous délivre, mais on sait que en Jésus, on a la victoire finale. On a la résurrection. On peut avoir des détresses, mais elles ne sont jamais définitives. Voilà, donc pour terminer, je ne connais pas vos situations personnelles, actuelles, si vous vivez des jours merveilleux ou des jours terribles, si vous êtes dans des montagnes ou des vallées, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien d'insignifiant pour Dieu. Et on a vu au travers de ces psaumes que Dieu n'est jamais un spectateur lointain de notre vie, mais il nous connaît parfaitement. Il marche avec nous fidèlement. Dans le psaume 139, on a vu qu'il nous connaît même avant notre naissance. Il connaît nos pensées, nos chemins, présents, où que nous allions. Et dans le psaume 34, on a vu que Dieu, c'est celui qui entend nos cris, qui s'approche de nos cœurs qui sont brisés, qui nous protège, qui nous délivre. Et voilà, il y a un psaume qui nous enseigne qui est Dieu, omniprésent, omniscient, créateur, et un autre qui nous montre comment Dieu agit envers ceux qui se confient en lui. Et nos questions, la question, c'est pas est-ce que ma situation, celle que je vis, est-ce qu'elle est favorable? Est-ce que je fais confiance à Dieu dans ma situation, quelle qu'elle soit? Parce que nous, en tant que croyants, on a l'assurance de jamais marcher seul. Et c'est vraiment une certitude. Parce qu'en plus, on sait que le caractère de Dieu ne change pas. Les circonstances peuvent changer, nos émotions peuvent fluctuer, les saisons de la vie se succèdent, mais Dieu demeure le même. Ses promesses reposent sur sa fidélité et pas sur notre stabilité. Et il le dit lui-même en Malachie 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dans l'Épître aux Hébreux, on nous rappelle Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'apôtre Paul nous dit que nous avons même une garantie supplémentaire, parce que on a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc au-delà de ses promesses, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est vraiment pour ça qu'on peut avoir confiance en lui. Pas parce qu'on sait ce que demain nous réserve, mais parce qu'on connaît celui qui tient le demain, finalement, entre ses mains. Le Dieu qui connaissait David, qui l'a soutenu dans ses combats, c'est le même aujourd'hui, c'est notre Dieu, c'est celui qui connaît nos jours aujourd'hui. Et son amour ne dépend ni de nos montagnes, ni de nos vallées. C'est son amour qui dirige nos plans. Et voilà, peut-être juste se poser la question, est-ce que quand on est dans des moments difficiles, est-ce que Dieu veut mon malheur? Est-ce qu'il a retiré mon amour? Est-ce qu'il m'aime? Et je vous donne juste la réponse, si vous ne l'avez pas, en Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la détresse ou bien l'angoisse ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Un peu plus loin, oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vraiment le fondement de notre paix et de notre espérance.